Boulon manquant, votre rendez-vous neurosciences. L'émission dans laquelle nos neurones roulent des mécaniques. Un jeudi par mois, à 18h, sur Radio Campus Paris, 93.9 FM.
L'article du jour s'intitule « Large-scale cortical functional networks are organized in structured cycles » paru dans la revue Nature Neuroscience le 27 août 2025. Chères têtes bien faites, bonsoir et bienvenue au Boulon manquant. Ici, les neuromythes ont parfois leur place, pour quelques instants, avant d'être gentiment redirigés vers l'autre oreille par laquelle tout ressort. Aujourd'hui, nous avons un invité de choix. Nous n'utiliserions que 10% de notre cerveau. Un cerveau qui fait la part belle au cortex visuel, au cortex auditif et au cortex sensorimoteur et qui dispose même de régions entièrement dédiées au mouvement ou à la gestion de notre rythme cardiaque et de notre digestion. Et pourtant, ce neuromythe-là a su se faire une belle place dans notre culture, jusqu'au cinéma. Lucy Johansson terrasse 5 agents secrets à elle seule avec son cerveau qui tourne à 100% de ses capacités. Limitless décrit un monde où une pilule magique qui produit un effet similaire apporte gloire et destruction aux protagonistes. En vérité, nous n'utilisons pas tout notre cerveau en même temps. L'activité simultanée d'un très grand nombre de neurones est plutôt observée lors de crises d'épilepsie. Vous avez peut-être entendu parler de petites régions cérébrales comme l'aire de Broca ou de Wernicke qui joueraient un rôle particulier dans notre cognition. L'aire de Broca et l'aire de Wernicke ont été identifiées comme responsables de la parole et de la compréhension du langage, respectivement, parce qu'elles étaient les seules régions dégradées chez des patients qui avaient perdu ces facultés. Paul Broca a notamment marqué les neurosciences de son nom grâce au cas de M. Le Borgne, surnommé patient Tant, parce qu'il répétait cette syllabe sans pouvoir dire autre chose. Mais comment ces régions récupèrent-elles l'information auditive ? Et vers où transmettent-elles leurs instructions pour produire un discours cohérent avec notre bouche et nos cordes vocales? Si chaque parcelle de notre cerveau travaille surtout à une tâche en priorité, il faut bien qu'elle soit coordonnée avec d'autres pour aboutir à nos fonctions cognitives. Aujourd'hui, nous allons parler d'un concept découvert il y a un peu plus de 20 ans. Les réseaux de neurones. Autrement dit, les activations coordonnées de régions cérébrales qui sont associées à des fonctions cognitives. En cela, le cerveau et ses différentes régions cérébrales peuvent être comparés à un grand orchestre composé d'une variété extraordinaire d'instruments. Cet orchestre peut jouer n'importe quel genre musical, mais la cacophonie est vite arrivée si les musiciens ne se mettent pas d'accord sur qui joue. Et quand ? Admettons par exemple qu'un état de concentration pour une tâche intellectuelle corresponde à de la musique classique. On entendra sûrement les violons ou une flûte traversière. Mais si une activité physique intense correspondait à un concert de rock, il est possible que les guitares jouent aussi avec les violons. Si vous n'avez encore jamais entendu ce que ça peut donner, je vous recommande de chercher Lindsey Stirling sur YouTube. C'est la fête de la musique tous les jours dans notre tête. Les émotions, les besoins physiques et les activités varient vite. Savoir quel genre jouer à chaque instant est donc un enjeu critique. C'est d'ailleurs un facteur possible de troubles comme le TDAH. Le cerveau aurait du mal à jouer un morceau cohérent à la fois. Résultat, on pense à plusieurs choses contradictoires en même temps et la concentration sur une seule tâche est plus difficile. Des scientifiques d'Oxford, Birmingham et Sydney ont joint leurs forces pour comprendre comment notre orchestre s'accorde pour exécuter toutes nos fonctions cognitives au bon moment. Bon, déjà, la première question que vous vous posez est peut-être « Comment observe-t-on des réseaux de neurones en action chez des humains ?» En fait, on peut voir plusieurs régions cérébrales s'activer en même temps, mais ça ne veut pas forcément dire qu'elles interagissent entre elles. Définir si ce qu'on voit est un réseau nécessite une analyse comparative de plusieurs individus dans le même contexte. Mais parlons d'abord de l'observation simple. Il existe plusieurs méthodes pour observer l'activité cérébrale, toutes avec des niveaux de précision différents, selon que l'on s'intéresse à la résolution temporelle ou spatiale. Celle qui nous intéresse ici est la magnétoencéphalographie, ou plus communément MEG. En principe, on mesure les mini-champs électromagnétiques provoqués par l'activité simultanée d'un grand groupe de neurones voisins. On peut ainsi mesurer les changements d'activité cérébrale en temps réel, soit à la milliseconde près, et à grande échelle dans différents contextes, soit au repos, soit lorsque les participants effectuent une tâche. Mais c'est une méthode délicate et coûteuse. Il faut isoler la personne du champ magnétique de la Terre dans une pièce conçue pour, et la machine nécessite beaucoup d'hélium liquide pour détecter ces fameux champs électromagnétiques. En outre, la personne ne doit pas bouger pendant les mesures. Sachant tout ça, deux options s'offrent à nos chercheurs. La première, organiser une étude MEG de A à Z, avec les demandes de financement, la conception des tests et le recrutement de participants que cela implique. La deuxième, faire une analyse après coup de données existantes. Cela implique de travailler avec des données hétérogènes, obtenues avec des méthodologies et sur des échantillons de nature différentes, mais l'analyse peut en être d'autant plus intéressante si on les compare entre elles. Ils ont donc récupéré les résultats de 5 études effectuées entre 2013 et 2019 au Royaume-Uni. 4 d'entre elles contiennent des données MEG au repos pour près de 790 individus au total et 2 d'entre elles mesurent l'activité cérébrale pendant des tests cognitifs pour un total de 62 individus. À partir de là, comment définir un, voire plusieurs réseaux de neurones? Après tout, une MEG ne suit que les changements d'activité cérébrale détectés à différents endroits sur la tête. Comment savoir si notre cerveau joue de la musique classique ou du rock à partir de ces grandes zones d'activation? C'est tout un protocole que notre équipe va développer pour repérer ce que les études d'avant ont manqué dans leurs données. D'abord, il faut identifier le nombre d'états, le nombre de genres musicaux dans lesquels seront répartis les changements d'activité cérébrale. Pour ça, des modèles mathématiques existent déjà. Selon le modèle en question ici, un état est une combinaison de régions activées en même temps, avec une stabilité et une puissance spécifiques, que l'on retrouve chez le plus grand nombre possible d'individus observés. Au total, 12 états sont identifiés. 12 genres musicaux qui sont identifiés indépendamment sur les 3 plus grosses études utilisées et ordonnées selon leur stabilité et leur puissance. Si la modélisation mathématique ne suffit pas à les définir comme des réseaux concrets, ils s'appuient néanmoins sur des critères qui correspondent à des caractéristiques de réseaux déjà connus. Par exemple, 2 états sur les 12 ressemblent au réseau dit « par défaut ». Lorsque nous ne pensons à rien, c'est lui qui est le plus actif, et il est à l'inverse désactivé dès que nous portons notre attention sur quelque chose. Il implique une petite dizaine de régions qui s'étendent de l'avant du cerveau au niveau du cortex pariétal à l'arrière dans le cortex pariétal postérieur. Selon une hypothèse du neuroscientifique Vinod Menon, un chercheur à l'université de Stanford, il serait directement régulé par d'autres réseaux neuronaux. Ces derniers l'activeraient après avoir traité une information venue de l'extérieur. Le réseau neuronal par défaut nous permettrait donc l'introspection. En ramenant le fil de nos pensées vers nous-mêmes, on peut interpréter nos expériences personnelles pour comprendre le monde autour de nous et en construire une histoire cohérente. Étape 1. Relier les points. Maintenant que vous avez une meilleure idée d'à quoi correspond un réseau neuronal, revenons à notre étude. Les 12 états ont été définis, l'analyse peut commencer. Pour comprendre la suite, il faut que je vous explique un peu à quoi ressemblent les données MEG. Prenons l'exemple de l'état numéro 1. En fait, chaque état ne reste actif que quelques instants, puis disparaît avant de revenir. Pendant que le numéro 1 est inactif, d'autres états vont s'activer, soit juste après lui, soit juste avant qu'il ne revienne. Dans le cas où un autre état, par exemple le numéro 5, s'activerait systématiquement juste après le numéro 1, il y a de fortes chances pour que l'état numéro 1 contribue à son activation. Dans le cas inverse, où un autre état, par exemple le numéro 2, s'activerait systématiquement avant le retour de l'état 1, on peut supposer que l'état numéro 2 joue un rôle dans l'activation de l'état numéro 1. En les comparant tous entre eux, les chercheurs ont découvert que sur les 4 études qui ont mesuré l'activité du cerveau au repos, on retrouve presque le même cycle dans lequel s'enchaînent les 12 états. L'état numéro 1 est toujours suivi par les états 3 et 5, l'état 3 est systématiquement suivi de l'état 9, etc., jusqu'à l'état 2 ou 4, qui est suivi de l'état numéro 1. Mais alors, comment ce cycle a-t-il pu passer inaperçu dans les laboratoires qui ont récolté ces mêmes données auparavant ? Pour répondre simplement, c'est parce que notre équipe a pris en compte un paramètre délicat. L'intervalle d'inactivité de chaque état varie beaucoup, entre quelques centièmes de seconde et plusieurs secondes. Si on ne cherche de lien entre eux que pour des durées d'absence fixes, on passe à côté de ce phénomène. Ils ont constaté que si chaque état revient à des intervalles irréguliers, aucun cycle visible ne les relie lorsque ces intervalles sont rapides. À l'inverse, les états se structurent de plus en plus selon ce cycle lorsque les intervalles d'absence s'allongent. Donc, le cycle dans lequel les différents états s'enchaînent est plus stable lorsque ces états s'alternent lentement. Étape 2. Un cycle qui fait cogiter. Très bien. Ils ont identifié une alternance cyclique d'interaction globale dans le cerveau. Maintenant, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire sur nos fonctions cognitives ? Eh bien, en revenant aux propriétés de ces 12 états, les chercheurs ont constaté des correspondances intéressantes. Si on les divise en 4 groupes sur l'axe haut, bas et gauche-droite du cycle, on peut associer chaque groupe à des réseaux de neurones connus. Le premier groupe, celui du haut, s'apparente au réseau par défaut dont nous parlions tout à l'heure, actif lorsque nous sommes calmes et sans porter notre attention sur quelque chose en particulier. À l'inverse, le groupe du bas rassemble des états associés au réseau d'attention dorsale, qui nous permet de maintenir notre attention visuo-spatiale. Le groupe de gauche est quant à lui associé aux fonctions sensorimotrices, plus particulièrement à leur inhibition. Enfin, on retrouve dans le groupe de droite des états dans lesquels sont activées des régions frontotemporales, généralement impliquées dans des tâches cognitives complexes comme le langage. En résumé, cette seconde analyse met en évidence une alternance de grandes fonctions cognitives dans un ordre donné. Si l'on commence avec le réseau par défaut, alors celui-ci est suivi de l'activation des régions frontotemporales qui vont à leur tour céder leur place à l'attention visuo-spatiale, pour finir avec la régulation sensorimotrice. Les réseaux des régions sensorimotrices activent ensuite le réseau par défaut et on recommence. Notre cerveau traiterait donc tour à tour notre perception du monde, de nous-mêmes et les réflexions qui en résultent, sur une durée entre 300 millisecondes et 1 seconde en moyenne. Comment sait-il quelle musique jouer pour la circonstance ? Ce qui est sûr, c'est qu'en passant tous les morceaux du jukebox, on est certain que le bon sera vite entendu. Étape 3. Ces cycles sont à vous. L'avantage quand on reprend d'autres études plutôt que d'en concevoir une soi-même, c'est qu'on peut facilement faire des analyses sur un grand nombre d'individus. On ne peut pas effectuer tous les tests que l'on veut sur l'ensemble des participants, mais il est possible de répartir ces tests entre les études en fonction des atouts de chacune. Par exemple, le Centre d'études du vieillissement et des neurosciences de l'Université de Cambridge a lancé en octobre 2010 un projet encore en cours pour étudier le cerveau à tous les âges. Grâce à cette étude seule, notre équipe a pu comparer les effets de l'âge et du sexe biologique sur l'évolution du cycle pour plus de 600 participants entre 18 et 88 ans. Nos chercheurs ont également bénéficié d'une étude de l'Université de Saint-Louis à Washington qui comprend dans ses participants des vrais et des faux jumeaux. Par vrais jumeaux, j'entends ceux qui partagent exactement les mêmes gènes. Nous l'avons vu plus tôt, le cycle décrivant l'alternance des 12 états n'est vraiment détectable que si les états s'enchaînent assez lentement. S'ils sont trop rapides, leurs liens ne sont plus aussi déterminés et le cycle n'existe plus. Admettons que plus le cycle est visible chez un individu, plus il est robuste. D'après les résultats de nos chercheurs, un cycle peut durer entre 300 millisecondes et 1 seconde en moyenne. Plus la durée moyenne d'un cycle est longue, plus sa fréquence va diminuer. De là, on peut se demander, est-ce que les propriétés du cycle varient en fonction de l'âge ou du sexe ? Sont-elles héréditaires ? La réponse courte est oui. Plus précisément, la fréquence du cycle est héréditaire et dépend de l'âge et du sexe. Elle est un peu plus élevée chez les femmes et les jeunes. En revanche, la robustesse du cycle ne dépend que de l'âge, au cours duquel elle augmente légèrement. Ces observations suggèrent que les états restent et disparaissent plus longtemps chez les personnes âgées. Or, comme pour l'âge, des cycles plus robustes et moins fréquents sont associés à de moins bonnes performances cognitives. Si ce constat concorde avec le modèle actuel de déclin cognitif lié à l'âge, les différences restent modestes pour la plupart des tests et l'association trouvée ne suffit pas pour conclure un lien de cause à effet. D'ailleurs, le projet mené à Cambridge a démontré une réalité plus complexe sur l'évolution des capacités cognitives au cours de la vie. Mais ça, c'est une autre histoire. Étape 4. Réflexion faite. D'accord, le cycle dans lequel s'alternent les états cérébraux dépend de facteurs biologiques comme l'âge, le sexe et le patrimoine génétique. On l'a vu, un cycle plus robuste et lent est associé à de moins bonnes performances cognitives. Mais pourquoi ? Comment s'organise le cerveau lorsque nous avons une tâche à accomplir ? Deux scénarios sont possibles. Soit le cycle disparaît temporairement pour que les états appropriés restent actifs le temps de compléter la tâche. Soit il persiste, ce qui veut dire que ces mêmes états s'alternent toujours avec ceux qui ne participent pas à la tâche. Lors de la présentation des méthodes de notre équipe de chercheurs, je vous ai dit qu'ils avaient repris deux études qui ont observé l'activité cérébrale pendant des tests cognitifs visuels. La première a soumis les participants à un test de mémoire, tandis que la deuxième a fait appel à leur réactivité. Pour le premier test, les chercheurs ont calculé la probabilité que le cerveau se trouve dans chacun des 12 états pendant que les participants se remémorent les motifs à apprendre. Résultat, les états proches du mode par défaut sont plus souvent actifs lorsque les participants repensent aux images. Inversement, les états qui leur sont opposés dans le cycle ont moins de chances que les autres d'être actifs dans ces moments-là. Mais le cycle persiste, ce qui veut dire que la remémorisation est fractionnée dans le temps. Au lieu de penser constamment aux images, les participants y pensent à chaque cycle, donc plusieurs fois sur un intervalle de quelques secondes. Le test de réactivité a un intérêt particulier par rapport à un test de mémoire. On peut très précisément évaluer la performance d'un individu en fonction de son temps de réaction. Alors, qu'est-ce que nos chercheurs ont observé dans ce cas-là ? Eh bien, que la performance dépend de l'état cérébral dans lequel les participants ont le plus de chances de se trouver juste avant de devoir répondre. Si leur cycle prédit qu'ils seront plutôt dans un état stable, lié à une meilleure attention visuelle, ils répondront plus vite. S'ils ont plus de chances de se trouver dans un état opposé, ils répondront plus lentement. Non seulement le cycle persiste, mais il détermine la performance cognitive. Autre élément intéressant, ils ont aussi constaté qu'un cycle plus robuste favorise des réponses plus rapides. Souvenez-vous du lien qu'ils avaient découvert entre robustesse du cycle et moins bonne performance cognitive, sachant que la robustesse a tendance à augmenter avec l'âge. Ces résultats démontrent que la relation entre l'âge, les propriétés du cycle et les performances cognitives est plus complexe que ça. Alors, que nous a appris cette étude ? Déjà, que l'on peut regrouper les changements d'activité cérébrale sur plusieurs jeux de données indépendants dans des états similaires. Ensuite, que le cerveau passe d'un état à un autre selon une logique particulière. Cette logique décrit un cycle où chaque état a tendance à revenir à un moment qui dépend non seulement de l'état d'avant, mais aussi de la fonction cognitive à laquelle il contribue. Avant cette étude, on savait déjà que les transitions entre réseaux de neurones n'étaient pas tout à fait aléatoires. Dans le cortex visuel, le traitement de l'information est séquentiel. Plusieurs régions spécialisées s'activent les unes les autres dans un ordre précis, de A à Z. On l'a notamment observé chez le macaque et chez la souris. Sauf qu'ici, on observe pour la première fois un enchaînement prévisible et cyclique à l'échelle du cerveau humain entier. Bien sûr, ces résultats sont le fruit d'une modélisation, à partir de données conçues par d'autres études, selon des paramètres qui ne collent pas tout à fait avec le fonctionnement d'un cerveau vivant. Par exemple, le modèle mathématique qui a identifié les 12 états part du principe que chaque état ne peut être qu'actif ou inactif, pas dans un entre-deux transitoire. Par ailleurs, les caractéristiques choisies pour les définir n'englobent pas forcément toutes celles qui pourraient distinguer un réseau neuronal des autres. En fait, il n'y a pas encore de consensus à ce sujet. Comme souvent en science, la réponse à cette question ne sera obtenue que par la combinaison de différentes stratégies. D'une part, l'observation de l'activité cérébrale par plusieurs approches expérimentales permet de compenser les limitations de chaque méthode. À l'inverse de la MEG, l'IRM fonctionnel est plébiscité pour détecter les régions cérébrales actives avec une grande résolution spatiale, mais sa résolution temporelle de l'ordre de plusieurs secondes ne permet pas d'observer leurs changements en temps réel. D'autre part, l'analyse comparative de plusieurs études permet de rassembler des données pour un grand nombre d'individus à la fois et d'en tirer des conclusions nouvelles. Les différentes approches partant toutes de postulats et de questionnements différents, il est possible que l'on identifie ainsi des dénominateurs communs dans la structure des réseaux neuronaux auxquels on n'aurait pas pu penser autrement. Mais à quoi ça servirait de répartir les tâches cognitives en mini-tranches qui s'alternent les unes avec les autres? Son aspect héréditaire suggère que ça nous apporte un avantage évolutif. On sait par exemple que l'alternance des phases du sommeil nous permet de bénéficier de chacune d'entre elles, même en cas de nuit plus courte que prévu. Selon le modèle de nos chercheurs, notre cerveau reprend un schéma similaire lorsque nous sommes éveillés, ce qui garantit que chaque fonction cognitive est assurée en permanence. Je me demande si ce phénomène pourrait contribuer à certaines de nos étonnantes capacités, notamment nos associations d'idées parfois saugrenues ou la résolution de problèmes qui survient alors que l'on est en train de prendre notre douche. Ne vous a-t-on jamais conseillé de sortir prendre l'air ou de passer à autre chose lorsque vous bloquez sur un problème ? On sait déjà que lorsque nous nous concentrons, nous mobilisons des réseaux de neurones très localisés. C'est très bien pour mobiliser des connaissances précises dans un domaine, mais en contrepartie, on est beaucoup moins créatif sur le long terme. Si on n'arrive pas à résoudre le problème qui nous intéresse, on finit vite par tourner en rond. Lorsque nous sommes plus détendus, les réseaux comme celui par défaut connectent des régions plus diverses entre elles, ce qui permet de faire émerger des idées originales. Et si ces idées venaient aussi du fait qu'on active inconsciemment des réseaux plus localisés à chaque seconde, même au repos? Au tout début de cet épisode, je vous ai mentionné en passant que les transitions entre réseaux de neurones sont peut-être différentes chez les personnes avec un trouble neurodéveloppemental. Je parlais du TDAH, pour lequel des réseaux correspondant à des fonctions cognitives différentes pourraient être actifs en même temps. Chez les personnes autistes, plusieurs études ont observé que certaines transitions sont moins fréquentes que chez les personnes neurotypiques. Ça correspond avec la rigidité cognitive qui caractérise l'autisme. Que se passerait-il si on pouvait modifier la fréquence de ces transitions? Depuis quelques années, les méthodes de stimulation cérébrale non-invasive sont testées comme possible traitement pour réduire les symptômes du spectre de l'autisme. En juin de cette année, Deux chercheurs japonais ont publié les résultats d'un protocole de stimulation du lobe pariétal droit par ondes magnétiques. Rien à voir avec les ondes que produisent nos téléphones, je vous rassure. Ils ont non seulement augmenté la fréquence des transitions entre réseaux neuronaux chez des personnes autistes, mais ont de ce fait amélioré leur capacité à détecter les signes de communication non verbale et globalement réduit leur rigidité cognitive. Ce qui, soit dit en passant, concorde avec l'hypothèse selon laquelle le fonctionnement du cerveau dépend d'une régulation active des alternances entre les réseaux de neurones. Impactée par notre biologie, déterminante pour notre cognition, serait-elle unique pour chaque individu? Est-ce que la changer, c'est changer qui nous sommes? Je laisse vos réseaux neuronaux s'agiter sur ces questions. En attendant de vous retrouver le mois prochain, faites de belles balades et appréciez votre matière grise telle qu'elle est. Watching him dash away, swinging an old bouquet, dead roses, sake and strange divine.